Vous êtes sur la web radio éducative du groupe Éducaction. Il est 13h. Le journal Romuald Legault. Éducation Info, les titres.
Le plan de développement des ressources humaines du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est en cours de validation en ce moment même au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Des représentants de 5 ministères sous-sectoriels y prennent part. Exclusion d'un étudiant de la FASEG UAC pour 2 années académiques. Nom du concerné et motif de son exclusion à découvrir dans ce journal. Août 2023, c'est une date que tout AME aspirant au métier d'enseignant officiant sur le territoire béninois doit guetter. Et pour cause, restez à l'écoute pour en savoir davantage. Et puis, loi portant hygiène publique en République du Bénin, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans nos écoles et établissements, universités, lycées et collèges avec l'avènement de cette loi? Des spécialistes nous en parlent dans cette édition. Des nouvelles éducatives de Porto Novo et de la Côte d'Ivoire viendront enrichir cette édition. En voilà pour le sommaire. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022, dernier jour ouvrable de l'année 2022. Les préparatifs pour rentrer dans la nouvelle année vont bon train au Bénin et partout dans le monde. Soyez prudents et vigilants en circulation pour éviter les risques d'accidents. Développez les bons réflexes au-delà des prescriptions du code de la route. Bonjour, bienvenue au grand format de l'actualité éducative sur Radio Éducation. Les détails dans un court instant. À nouveau bonjour. Le lycée technique Koulibaly de Cotonou a accueilli du 26 au 30 décembre 2022 l'atelier de validation du plan de développement des ressources humaines du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur de la planification de l'administration et des finances, Zakaria Ou Aboudou Maman, a renseigné qu'au niveau du personnel administratif ainsi qu'au niveau du personnel enseignant, tout est prévu dans ce plan. Et à Garba Ayouba, directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, d'exhorter les participants à étudier le document sans complaisance pour que sa validation donne aux décideurs politiques un document de qualité qui puisse voyager à travers le temps et l'espace et rehausser davantage l'image de ce ministère. En plus des cadres de ce ministère sous-sectoriel, 5 autres ministères sont conviés à cette validation. Il s'agit du ministère de la fonction publique, du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, du ministère de l'économie et des finances, du ministère des enseignements maternels et primaires et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Puisqu'on parle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, on y reste pour parler cette fois-ci, je le disais, en titre d'une sanction prise par l'une de ces institutions sous tutelle. Il s'agit bien, vous vous en doutez, de l'université d'Abomey-Calavi où le recteur Félicien Avlessi a exclu l'étudiant Isaac Wetienou, inscrit en licence 2 à la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion. Il est reproché à l'étudiant des faits d'insultes et de provocations verbales. Dans l'article 1er de son arrêté portant sanction de l'étudiant et rendu officiel le 23 décembre 2022, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a porté à l'attention de la communauté universitaire qu'il est infligé à la apprenant Isaac Wetchenou, reconnu coupable d'insultes et de provocations verbales au cours de l'année académique 2021-2022, une exclusion temporaire de 2 ans. Lors de sa période de suspension, le recteur interdit à l'étudiant de s'inscrire dans l'une des unités de formation et de recherche de l'université d'Abomey-Calavi. Aussi, comme sanction, les examens passés par le sieur Isaac Wetchenou au titre de l'année en référence sont nuls et de nul effet, précise l'arrêté du recteur. Selon nos informations, l'étudiant Isaac Wetchenou, responsable au sein d'une organisation estudiantine, aurait insulté et provoqué de manière répétitive certains responsables de la faculté dans laquelle il est inscrit en qualité d'étudiant. Il peut donc s'inscrire de nouveau à l'université d'Abomey-Calavi au titre de l'année académique 2023-2024, a rappelé la décision de sanction du recteur Félicien Avlessi. Août 2023, c'est la date que doivent garder en mémoire les AME, les aspirants au métier d'enseignant désireux de changer de statut pour devenir agent contractuel de droit public de l'État après 3 années probatoires fructueuses comme aspirant au métier d'enseignant. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Rungbedi, qui précise que seuls les AME qui auront atteint le seuil de réussite après le premier test qui se fera courant août 2023 changeront désormais de statut. L'avantage de cette mesure, poursuit-il, est que le nombre d'agents à recruter n'est pas défini à l'avance comme pour un concours. En conséquence, tous ceux qui réussiront à l'évaluation deviendront ACDPE, selon Wilfried Leand Rungbedi. Les autres vont demeurer aspirants au métier d'enseignant. Tous les AME qui auraient donc rempli les conditions exigées par l'évaluation et qui auraient éventuellement échoué passeront à nouveau le test l'année suivante avec la promotion d'après, souligne Wilfried Leand Rungbedi, saluant au passage les efforts du gouvernement à humaniser les conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant qui vont désormais percevoir un salaire non fluctuant sur 10 mois pleins avec la répartition du 11e salaire sur les mois de juillet et août, période où ils sont en formation, afin qu'il n'y ait pas de mois sans lequel ils ne reçoivent le moindre copec du gouvernement du Bénin. Parlons à présent hygiène et assainissement dans nos écoles et universités. Le visage que présentent certains établissements scolaires et universitaires, notamment ceux du public, en matière d'hygiène publique en République du Bénin, est tout sauf gai. Quoique dotées d'installations sanitaires comme le prescrit la loi, elles ne sont pas pourvues pour la plupart de canalisations d'eau, à même de soulager administratifs scolaires, enseignants et apprenants. Alain Tosounon, secrétaire général du CANNEA, le cercle de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l'eau et de l'assainissement en République du Bénin, revient sur les défis à relever avec l'avènement de la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant code de l'hygiène publique en République du Bénin.
Le premier défi, c'est que quand nous voyons l'état de nos écoles, de nos universités, surtout publiques, c'est que dans ces établissements, il y a un manque d'accès aux ouvrages d'assainissement. Nous avons des blocs de latrines qui ne sont pas en nombre suffisant, aussi bien dans les établissements primaires que secondaires et même dans nos universités publiques. Et dans ces établissements primaires comme secondaires, très souvent, ces blocs de latrines sont éloignés des salles de classe et parfois, entre les salles de classe et ces blocs de latrines, souvent vous avez des herbes et les apprenants ne peuvent pas y avoir accès facilement sans des risques. Le deuxième défi, c'est celui de l'entretien. De l'entretien de ces latrines-là, c'est une problématique majeure.
Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi? Élément de réponse avec Aurore Biokou, responsable formation et communication au partenariat national de l'eau.
La loi, au niveau des articles 40, 42, 43 et 45 a bien précisé ce qu'il fallait attendre donc des établissements scolaires et universitaires. L'article numéro 40 dit que chaque bâtiment public dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires qui garantissent l'accès et la facilité d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap. Et après cela, nous avons l'article 43 qui dit que chaque établissement des différents ordres d'enseignement dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et des installations sanitaires appropriées qui garantissent l'accès à la facilité d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap. Alors, ce sont ces toilettes, ces installations qui tiennent compte du sexe. On peut les appeler encore des installations sexo-spécifiques. Donc, des toilettes pour les filles à part et des toilettes pour les garçons à part. Et lorsqu'on parle de handicap spécifique, c'est pour les personnes handicapées qui ne disposent pas toutes leurs facultés physiques pour pouvoir utiliser les mêmes types d'ouvrages sanitaires que les autres. Donc, on doit tenir compte de leur situation pour pouvoir leur offrir un ouvrage qui serait facile d'utilisation pour ces personnes.
On reste avec Aurore Bioko qui revient ici sur les responsabilités spécifiques qui incombent aux chefs d'établissement et aux différentes municipalités avec le vote et la promulgation de la loi portant hygiène publique en République du Bénin.
Les chefs d'établissement, c'est l'article 45 qui les adresse en disant que les chefs d'établissement veillent au respect des règles élémentaires d'hygiène dans les écoles et les universités. Et pour un suivi, c'est que les agents assermentés de la municipalité et des services en charge de l'hygiène et de l'assainissement du ministre en charge de la santé procèdent à des inspections sanitaires dans les établissements scolaires et universitaires. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de responsabiliser alors ces chefs d'établissement pour que désormais, dans ces écoles, dans ces établissements scolaires, qu'elles soient publiques et même privées, parce que la loi n'est pas faite seulement pour le public, mais pour tout citoyen béninois. Donc, étant donné que nous avons des écoles, des établissements publics et des établissements privés, les deux types d'établissements doivent respecter cette disposition-là, donc, de la loi. Et désormais, la municipalité doit pouvoir s'investir dans le suivi au respect donc de cette disposition de la loi qui adresse ces établissements scolaires et universitaires.
À la question de savoir quel est le visage que présenteront désormais les établissements scolaires et universitaires avec l'avènement de cette nouvelle loi, qu'est-ce qui changera fondamentalement? Alain Tosounon, secrétaire général du CANEA, répond.
Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions de la loi, il est attendu que dans ces établissements, qu'un certain nombre de dispositions soient prises pour doter donc ces établissements déjà de toilettes suffisantes et répondant aux normes. Et parlant de normes, déjà l'article 40 de cette loi dit que chaque bâtiment public, donc y compris donc les établissements des différents ordres d'enseignement, dispose d'une source d'approvisionnement en eau potable et d'installations sanitaires qui garantit l'accès et la facilité d'usage pour toute personne en tenant compte du sexe et des situations de handicap. Donc aujourd'hui, dans ces établissements, non seulement il faut avoir des toilettes en nombre suffisant et répondant aux normes, mais quand on parle de normes, par exemple, c'est que par le passé, vous avez les mêmes toilettes qui sont destinées aux garçons comme aux filles, même à l'université. Aujourd'hui, la loi fait obligation d'avoir donc des toilettes qui tiennent compte du sexe. C'est ça que nous appelons des toilettes sexo-spécifiques, c'est-à-dire des toilettes pour garçons et des toilettes pour filles. Donc, mais en plus, il faut prévoir des toilettes pour les personnes, les apprenants qui sont en situation de handicap. Donc, vous voyez, ce sont de nouvelles dispositions qui ont été introduites et les établissements donc scolaires devront pouvoir donc se mettre en règle, pouvoir respecter ces nouvelles normes-là.
Quand on parle de loi, on parle forcément des décrets ou tests d'application. On parle aussi généralement de tests réglementaires. C'est le vocable qui est couramment d'ailleurs utilisé. Ce relatif à la loi portant hygiène publique en République du Bénin tarde à sortir des tiroirs selon Aurore Biokou, responsable formation et communication au Partenariat national de l'eau.
Une chose, c'est quand même d'avoir la loi, mais la deuxième chose, c'est beaucoup plus la prise des décrets d'application. Donc, c'est encore un grand combat que la société civile au sein du CANEA a commencé déjà et continuera de faire pour que, avec les tests d'application, que la loi soit effectivement appliquée. Et à partir de l'application de la loi, je pense que progressivement, les choses vont changer. Plus rien ne sera plus comme avant.
Alain Tosounon partage d'ailleurs la même impatience que Aurore Biokou et déclare.
Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on sort des tests réglementaires. Vous avez beaucoup d'articles, beaucoup de dispositions qui renvoient à ces tests réglementaires-là. Déjà, il y a des tests réglementaires qui existaient par rapport à l'ancien code de l'hygiène publique et qu'il faut actualiser. Donc, il y a un travail d'actualisation et d'élaboration de nouveaux tests réglementaires qui a commencé au niveau du ministère de la Santé publique, mais il n'y a pas que le ministère de la Santé publique qui est concerné par rapport donc aux tests réglementaires. Vous avez le ministère du cadre de vie, donc qui gère tout ce qui est donc gestion des bouts de bidon, tout ce qui est eau usée et qui est aussi concerné par donc la prise de ces tests réglementaires-là. Vous avez même le ministère de l'Intérieur, parce que cette fois-ci, il y a eu une fusion de la police sanitaire avec la police environnementale, et le ministère de l'Environnement a son mot à dire, mais également le ministère même des Finances. C'est un travail qui doit être fait de façon concertée en tous les ministères sectoriels qui sont donc impliqués dans l'élaboration donc et l'adoption de, donc, des tests réglementaires. Où est-ce qu'on en est? C'est vrai que le travail là se poursuit, mais ça fait déjà depuis le 6 février donc où la loi été promulguée. On est un peu impatient d'avoir ces tests réglementaires pour faciliter donc l'application.
Occasion pour Aurore Biokou de lancer un vibrant appel aux gouvernants à divers niveaux en charge de l'hygiène et de l'assainissement dans notre pays. Les gouvernants éducatifs et chefs d'établissements scolaires et universitaires sont également dans l'œil de cyclone de Aurore Biokou et n'ont pas échappé à son appel. On écoute Aurore Biokou, responsable à la formation et à la communication au Partenariat national de l'eau.
C'est un vibrant appel que nous lançons à ces gouvernants pour qu'ils prennent au sérieux la question de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau potable dans les établissements scolaires et universitaires, étant donné que les enfants y passent un bon moment de leur temps, de leur journée dans ces lieux. Il va falloir que l'eau ne manque pas et qu'il y ait de l'eau potable pour garantir la santé aussi bien des apprenants que des enseignants.
Votée le jeudi 20 janvier 2022, la loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin est la version actualisée de la loi 87-015 du 21 septembre 1987. Autre volet de l'actualité éducative de cette semaine, les médias face à la montée de la violence. C'est le thème autour duquel les professionnels des médias se sont réunis le mercredi 28 décembre 2022 à la maison des médias Thomas Meyan 102 Cotonou. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition des RIM, les rencontres intergénérationnelles des médias, a eu pour invité spécial une icône de la presse béninoise. Son nom, François Koffi Aoudo. On fait le point de cette rencontre intergénérationnelle des médias avec Gloria Adivesori.
Ce 30 novembre, la Maison des médias Thomas Meyanson a abrité la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias. Initiée par le groupe de presse Éducation, les RIM ont pour objectif de constituer un moment de partage et de brassage intergénérationnel et surtout d'être un instant privilégié d'apprentissage à la source des aînés. Pour cette édition 2022, l'invité spécial des RIM a nom François Koffi Aoudo, une figure emblématique de la presse béninoise dont les mérites dus à son parcours exceptionnel ne laissent pas indifférent. Les médias face à la montée de la violence, c'est le thème central de cette rencontre sur lequel l'invité spécial des Rimes, édition 2022, n'a pas manqué de se prononcer. Comment est-ce que le journaliste peut travailler de façon à éradiquer ce contexte de violence qui s'installe malheureusement aujourd'hui dans notre pays? Pour François Kofi Aoudo, la violence se joue dans le traitement que le journaliste en fait. Suivez ici son intervention.
Aujourd'hui, il est peut-être rare de suivre l'ensemble des chaînes de télévision à votre portée, les stations de radiodiffusion, de lire les journaux, de lire les médias sociaux et autres, et de ne pas voir des indices de violence. Quand ce n'est pas quelqu'un qui a été attaqué au couteau, c'est un forcené qui s'empare de son arme et qui abat de simples citoyens qui passent paisiblement dans la rue. C'est quelqu'un qui se permet de bastonner un enfant comme si cet enfant n'a pas une sensibilité, n'a pas une peau, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la violence, je ne voudrais même pas ajouter le terrorisme sur lequel nous entendons tous. Face à un contexte comme celui-là, n'oublions pas que la violence se joue beaucoup plus dans le traitement qu'on en fait, en réalité. Je ne voudrais pas du tout jeter la pierre aux médias. Je suis des vôtres et je reste des vôtres. Je ne voudrais pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas non plus interdire aux médias de couvrir l'actualité, même si la violence y est. En plus, je voudrais ajouter ceci. Il ne faudrait pas qu'on exagère l'influence des médias sur l'opinion. Il y a pas mal d'études qui démontrent que le pouvoir qu'on prête à la presse, en l'appelant quatrième pouvoir, a ses limites à bien des égards. Je ne vous apprends rien sur ce plan. Mais attention, les médias peuvent nous permettre d'atténuer ou d'aggraver la violence dans nos sociétés. C'est tout le problème à ce niveau. Le traitement qu'on fait de la violence peut contribuer à l'aggraver ou atténuer la violence dans notre société.
Le rôle de la presse, c'est que la violence, même si elle existe, elle puisse être atténuée. Le journaliste doit faire preuve de responsabilité sociale en toutes circonstances. Pour François Kofi Aoudo, cela s'avère très capital.
Il fut un temps où quand il y avait un accident dans la rue, vous verrez que tout le monde s'arrête automatiquement. Parce que ça choque. En tout cas, je parle des choses que moi j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Quand il y a un accident quelque part, vous verrez que tout le monde s'arrête. Et la première préoccupation, c'est comment venir au secours des blessés et autres, soit en appelant les sapeurs-pompiers, en appelant ci, en appelant ça. Mais comme moi, vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents où des personnes gisent à même le sol dans leur sang. Et au lieu d'avoir le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers, les gens prennent leur smartphone et font un tournage comme s'il s'agissait d'un film à envoyer en ligne. Vous voyez, à force d'habituer les gens aux images, à la description peut-être sanglante de la violence, on peut finir par habituer la société à la violence et je crois que la presse n'a pas ce rôle à jouer. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle puisse être atténuée dans notre société. Mais je dois ajouter, ou plutôt rappeler, que je ne jette pas la pierre à la presse. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait. D'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Et le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. À défaut, si vous estimez que c'est le cas, de ne pas y toucher carrément. Voilà quelques éléments que je voudrais partager avec vous.
Ulrich Vital Arotondi, directeur général du groupe de presse Éducation, reprécise ici toute l'utilité des rencontres intergénérationnelles des médias initiées depuis 2016.
Oui, nous sommes partis du constat que nous évoluons en couloirs séparés et nous sommes tous membres d'une corporation. Et vous savez, à Éducation, nous sommes très regardants sur les valeurs. Et donc, nous pensons qu'on ne peut effectivement évoluer dans le métier qu'à travers ce partage d'expérience avec les aînés qui ont fait le métier. C'est pour ça que les rencontres intergénérationnelles des métiers sont nées comme une initiative avec le premier invité, Jérôme Carlos, qui a animé vraiment ce plateau avec nous, ainsi de suite, Noël Alagbada. Nous essayons d'aller vers les aînés et d'apprendre d'eux, de partager avec eux nos difficultés, de prendre leurs conseils et surtout de parfaire notre pratique du métier. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas évoluer dans ce métier si nous ne regardons pas d'où nous venons, si nous ne connaissons pas l'histoire de notre presse et si nous ne pouvons pas tirer le meilleur parti de ces aînés qui sont encore là et qui ont fait le métier et qui peuvent nous apporter énormément. Et je vous assure que depuis 2016, ces éléments de réponse, ce partage que nous avons avec les aînés, vraiment, ça nourrit effectivement la profession et ça nourrit les jeunes journalistes qui participent.
Notons que les RIM édition 2022 ont aussi été l'occasion pour Éducaction de procéder à la remise d'attestation de fin de formation à bon nombre de ses étudiants.
C'est à 13h passé de 18 minutes que nous ouvrons la page région de ce journal avec Obed Sagbo, notre correspondant Ouémé Plateau, qui nous rapporte que du 28 au 29 décembre 2022, la préfecture de Porto Novo a servi de cadre aux assises du comité départemental de protection de l'enfant de l'Ouémé qui est à sa 4e session au titre de l'année 2022. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre qui était essentielle consacré au renforcement de capacité des acteurs. Compte rendu au Betsabou.
Ils étaient une trentaine d'acteurs à prendre part à cette 4e session du comité départemental de protection de l'enfant de l'Ouémé qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des systèmes nationaux de protection et d'éducation de l'enfant. Un programme implémenté par le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, RESPESD. Maxime Agua est le chargé de programme du RESPESD.
Que le programme que nous implémentons, la première phase nous a permis de faire le point des besoins des acteurs. Nous sommes actuellement à la deuxième phase qui a commencé depuis l'année dernière, 2021. Nous sommes en train de boucler la deuxième phase et il est question de faire des séances de renforcement des capacités à tous les acteurs de protection et nous avons mis un focus sur les cadres de concertation et de protection d'enfants. Je dois souligner que la politique nationale de protection de l'enfant a prévu qu'au plan national, il y ait un comité dit national de protection d'enfants. Et nous renforçons justement ce cadre et nous renforçons également les comités départementaux de protection d'enfants. Nous avons fait le tour du Bénin, nous avons été dans le nord, précisément dans le département de la Liborie, nous étions dans le Borgo, nous avons fait également l'Atlantique, le littoral. Nous sommes aujourd'hui 28 et 29 décembre dans le département de l'Ouémé justement pour ce même exercice.
À l'ouverture des travaux de cette session du comité départemental de protection de l'enfant de l'Ouémé, le représentant de la préfète de l'Ouémé salue l'initiative et laisse entendre que cette activité de renforcement des capacités aidera à améliorer la qualité des prestations en matière de protection de l'enfant. Fernand Agbayaoun.
La session qui vous réunit vous aidera à mieux appréhender la communication avec l'enfant, la prévention des violations des droits de l'enfant et enfin la médiation au profit de l'enfant. Vous imaginez trois thèmes majeurs pour la gestion de l'enfant. Je voudrais, comme d'habitude, vous encourager à faire montre du sérieux habituel, de la facilité habituelle à intervenir, à débattre des sujets. Donc c'est pour vous dire votre implication personnelle et individuelle pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en ce début de session qui va durer 2 jours.
Au terme de cette session, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé reconnaît le mérite du RESPESD en faveur de la promotion de l'enfance. Docteur Solange Ojo Arlonsou.
RESPESD nous a appuyés. Je voudrais tout simplement leur dire merci et les inviter à rester toujours dans cette dynamique, rester tout droit dans cette ligne qui se sont tracées. C'est très important. C'est des personnes qui font du sérieux, qui se respectent d'abord dans ce qu'ils font et mettent l'institutionnel au milieu même de ce qu'ils font. Je crois que c'est plus important que tout. Merci infiniment pour cet appui. D'accord, vous avez vu le renforcement de capacité des acteurs parce que la protection de l'enfant, c'est une thématique très dynamique avec différentes innovations à chaque fois et en voyant les risques sociaux évoluer, nous-mêmes devons faire évoluer nos stratégies d'intervention.
Sans transition, la page inter de cette édition qui nous amène en Côte d'Ivoire alors qu'il réclamait de l'état des emplois à travers une manifestation. 45 docteurs chômeurs ivoiriens sont condamnés à 4 mois de prison assortis de sursis. Le parquet ivoirien leur reproche des faits de troubles à l'ordre public. Leur jugement est intervenu ce mercredi 28 décembre 2022 au tribunal du plateau à Abidjan. 45 docteurs chômeurs ont été condamnés sur les 46 présentés, excepté Madame Beugré, confie leur avocat Maître Goïbi aux confrères du web média ivoirien Afrique Soir. C'est sur cette brève en provenance de la Côte d'Ivoire que nous refermons cette édition. Simon Ahossi, Elvis Paté, Jean-Marie Ahotondi, Rosalie Humbo, Ulrich Vital Ahotondi, Ferdinand Zamba, Romuald Logbo, toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation et de diffusion par ma voix vous souhaite de passer de très bons moments de fête de fin d'année en compagnie de nos programmes et par anticipation, toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation et de diffusion vous souhaite déjà une bonne et joyeuse année 2023. L'information éducative, la juste, la bonne, la vraie, reste en continu sur nos plateformes numériques et digitales. Vous pouvez nous consulter sur www.eduaction.org. On se retrouve en 2023, notamment en janvier, pour d'autres aventures informatives en ce qui concerne l'éducation au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Prenez soin de vous et passez d'excellents moments de fête. À très bientôt.